Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Et si François d'Assise avait encore quelque chose d'important à nous apprendre sur notre manière d'aimer, de croire et de vivre ensemble? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Vivante Église. Aujourd'hui, nous allons essayer de prendre le chemin de François d'Assise à travers un livre, L'audace de la rencontre à l'école de François d'Assise, publié aux éditions Nouvelle Cité. Pour en parler, j'ai la joie de recevoir son auteur, Suzanne Giuseppi Testu, franciscaine séculière, conférencière, engagée depuis de nombreuses années dans l'accompagnement spirituel. Elle nous invite dans cet ouvrage à redécouvrir François, non pas comme une statue lointaine, mais comme un homme traversé par les mêmes quêtes, les mêmes blessures et les mêmes désirs que nous. Avec lui, avec François, nous allons parler de rencontres, d'audace, de relations, de fraternité, de conversion intérieure et peut-être découvrir que la rencontre est aujourd'hui une véritable urgence humaine et spirituelle. Bonjour Suzanne Giuseppi Testu.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir dans ce Vivante Église aujourd'hui.
Moi, très heureuse de vous retrouver.
Ce qui frappe dans votre livre, le dernier qui vient de paraître, c'est que vous présentez François d'Assise avant tout comme un homme de relation. On est loin de cette image de statue pieuse ou idéalisée. Alors, ce bon François que vous fréquentez aujourd'hui et depuis de nombreuses années, qui était vraiment François avant de devenir celui que nous connaissons aujourd'hui?
Oui, je crois que vous avez dit une chose importante. On fige un petit peu, j'emploie ce mot figé, parce qu'on les met un petit peu dans un cadre bien strict, on fige un petit peu les saints, alors que ce sont des hommes et des femmes. Et je crois que François d'Assise incarne parfaitement bien cette humanité, parce qu'on aurait tendance à imaginer François né saint, coupé un petit peu du monde. D'autres peuvent l'imaginer compte tenu de son histoire, en lisant un peu superficiellement son histoire. D'autres peuvent l'imaginer comme un jeune un peu foufou, un petit peu fantasque, qui va participer à la prise d'un château représentant le pouvoir féodal. Alors un jeune un petit peu comme nos jeunes de maintenant, peut-être un casseur, on pourrait l'imaginer comme un casseur, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça du tout. François, c'est un homme de son temps, c'est un jeune homme de son temps qui vit sa jeunesse. Qui est bien sûr né dans une famille chrétienne, c'est difficilement concevable, l'inverse est difficilement concevable à cette époque, mais c'est un jeune qui aime le monde, mais qui va apprendre au fur et à mesure des événements de sa vie à aimer le Christ au-delà de tout et au-delà du monde. Mais c'est un homme avant tout, et c'est un vivant.
Et c'est un joyeux.
C'est un joyeux, oui, c'est un joyeux. Il attire beaucoup de jeunes autour de lui. Je crois qu'on pourrait dire qu'il a beaucoup de charme. C'est peut-être pour ça que je l'aime.
et qu'est-ce qui, oui, vous l'a fait, mais vous êtes tombé un peu. C'est une rencontre d'amour, c'est une rencontre fraternelle avec François. Comment vous pouvez, après toutes ces années de cheminement avec François, en parler de François, puisqu'on parle d'un François vivant, François dont l'amour au fond est contagieux et dont la joie est contagieuse.
Elle est contagieuse, mais elle peut rester cette joie. Là aussi, c'est intéressant de dire ça, parce que cette joie, elle est contagieuse, mais elle peut parfois rester superficielle. Parce qu'on peut maintenir François dans une radicalité. Souvent, on parle de la radicalité de François, mais ce n'est pas ça. Moi, j'ai connu, à partir de ma famille qui était attachée à la spiritualité franciscaine, à ma grande sœur, qui est sœur de Saint François d'Assise, j'ai beaucoup entendu parler du saint, dans mon enfance. Et il est certain que on le voit sur son petit nuage, on le voit, c'est quelqu'un de, qui est à part. Bon. Mais à partir du moment, en grandissant, en devenant adulte, en me confrontant à la vie, et surtout en reprenant les écrits de François, mais principalement en allant à Assise, en parcourant tous les chemins qu'il a empruntés, en reprenant son expérience de vie, là, je me suis aperçue qu'il était un homme à part entière et que son chemin de sainteté n'était pas de la magie. Ça ne s'était pas fait en claquant des doigts. Ça s'était fait tout simplement au regard de son histoire, avec ses traversées, avec ses erreurs, avec ses souffrances, avec ses passions, avec toute l'humanité. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et là, je me suis attachée à François parce que c'était un homme.
Et vous parlez aussi de passion chez François.
Des passions, oui. Mais bien sûr, ce n'est qu'un homme.
Il brûle, il déborde. Hein. Il y a toute cette humanité chez François.
C'est un vivant à part entière. C'est un vivant humainement parlant. Parce que comme chacun de nous, il est habité par toutes les passions et il n'hésite pas à les mettre en œuvre et il se laisse manipuler par ses passions et il y adhère comme nous pouvons y adhérer. Mais à partir du moment où il va rencontrer le Christ, il va faire de tout cela une richesse avec la grâce. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais avec la grâce, avec le oui qu'il va prononcer, il va se rendre compte que la vie, elle n'est pas uniquement attachée et liée à ce monde, elle est aussi attachée au Christ et ça, ça va le transformer. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez François.
Et séduit au fond, voilà. Hein, il vous a véritablement
séduit. Cette dimension humaine et spirituelle, oui.
Alors vous montrez aussi qu'il est habité, vous venez d'en parler, par des désirs qui sont très profonds, très humains, réussite, reconnaissance,
oui, besoin
gloire.
De reconnaissance.
Pourquoi est-ce important de rappeler cela, hein? Est-ce que ça rejoint aussi les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui ont aussi ce besoin de réussite, ce besoin de reconnaissance?
Oui. Mais ça rejoint, je crois, tout homme depuis que l'homme existe. Je pense que nous avons tous besoin d'être regardés, nous avons besoin d'être aimés. Et François, en tant que jeune homme, bien sûr, il avait des ambitions, et c'est normal. Et ce qui est très intéressant, par exemple, pour les jeunes actuels, c'est que les jeunes devraient entrer un petit peu dans la connaissance de François, parce qu'ils s'apercevraient que François était comme eux. Et puis, en avançant un petit peu dans l'âge, il avait des ambitions. Mais c'est normal, je crois qu'un jeune de 18 ans, 20 ans et un petit peu plus, il a des ambitions, nous avons des ambitions professionnelles. Il faut traverser nos âges. L'enfant a traversé l'enfance, l'adulte, l'adolescent a traversé l'adolescent, le jeune adulte également, mais il arrive au moment où le temps de la réflexion s'impose. Et c'est ce qui s'est passé pour François. Nous en sommes tous là, et ça, c'est très intéressant de le regarder, de le relire. On se trouve très proche de lui à ce moment-là. Le chemin de sainteté est ouvert à chacun de nous. C'est ce que ça nous fait découvrir.
Alors, ce dernier livre, parce que vous avez, dans le passé, aussi beaucoup écrit, Suzanne Giuseppi Testu, c'est votre dernier livre, L'audace de la rencontre à l'école de François d'Assise. Ce titre est audacieux, ça vous ressemble? Ça dit quelque chose aussi de l'auteur?
Oui, je crois. Je crois parce que sans audace, on ne peut pas être témoin, ni dans la vie, ni dans le monde du travail, ni du Christ. On ne peut pas être témoin du Christ parce que si on n'a pas d'audace, on ne sait pas prendre de risques. On n'accepte pas, on ne prend pas le risque de l'erreur. On n'accepte pas le risque de se tromper. Or, ce que François d'Assise m'a appris, en particulier d'autres saints également, on pourrait citer Avila, que j'aime beaucoup, mais ce que François d'Assise m'a appris, c'est que c'est en prenant des risques, en les acceptant, en acceptant l'échec éventuel, mais en suivant son désir, que là, on va s'enrichir et on va acquérir une force et on va se rendre compte, dans la mesure où ces risques, on les prend pour le Seigneur, pour Dieu, on va se rendre compte qu'on ne les prend pas seul. Et cela devient une très grande force. Donc, on a de moins en moins peur. On accepte le risque, on accepte de se tromper et on sait que dans l'erreur, nous serons rattrapés et que nous pourrons en faire une richesse. C'est ce que François d'Assise m'a appris parce qu'il a fait de nombreuses chutes, François.
Dans la vie de François, il y a aussi, et ça apparaît, des fragilités dans son histoire de vie, la maladie. Vous avez parlé des échecs, les désillusions semblent jouer aussi un rôle décisif dans le parcours de François. Il fallait aussi ces échecs dont vous avez parlé, ces désillusions parfois, pour qu'il se brûle quelque peu et comprenne une leçon de vie, une leçon de vie spirituelle. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'entendre ainsi, Suzanne ?
Oui, je crois qu'on peut l'entendre comme ça. Vous avez employé le mot « brûler », on se brûle. On se brûle au feu de la vie, et ça, ça fait très mal. Mais à partir de ce moment-là, chaque homme, chaque femme a la possibilité de se laisser brûler par Dieu, par la grâce. Et là, ça prend une autre tournure. Et il est certain que François, oui, il a eu des échecs, il a eu des douleurs, il a eu des souffrances, il a connu la maladie. Il a connu la prison, mais ça, il a bien voulu, bien sûr. Mais on s'aperçoit, au fur et à mesure que l'on entre dans la vie de François, que chaque fois, il s'en est sorti avec l'Église. Le chemin de François est très important, parce que chaque fois qu'il a été touché, qu'il a fait un pas de plus de la reconnaissance de lui-même, de ce retournement qu'il a rendu plus adulte, on s'aperçoit que c'était au contact de l'Église, au contact de la grâce. Quand il est allé à Rome, il a été profondément touché, il a fait un pèlerinage. Quand il était jeune adulte, il a été profondément touché devant le tombeau de Pierre. Ensuite, quand il s'est confronté à son père, il s'est remis entre les mains de l'évêque. Il n'était jamais seul, l'Église était toujours là. Ensuite, il a rencontré le Christ, alors qu'il était en errance et en très grande souffrance, il ne savait plus où il allait. Il était complètement paumé, on pourrait employer ce mot maintenant, il était complètement paumé, mais il a rencontré le Christ. Et ensuite, alors qu'il sentait bien qu'il y avait quelque chose, qu'il était appelé vers quelque chose, mais il ne savait pas quoi, et là, dans la petite église de la Portioncule, Sainte-Marie des Anges, il va entendre la parole d'évangile qui va le mettre sur la route. Ça veut dire que François, il est perdu, il fait des erreurs, il se trompe, il ne sait pas où il va, il se cherche, il cherche sa voie.
En fait, il est en chemin.
Il est en chemin,
un peu comme le chemin de Compostelle, un peu comme beaucoup qui partent sur ce chemin de Compostelle,
oui,
en quête de réponse. Voilà,
c'est
on cherche.
C'est un partant, François. C'est un partant. Voilà. D'ailleurs, la spiritualité franciscaine, elle se passe sur la route. Mais François, c'est un partant. Il inaugure cela à son époque où tout était enfermé en dedans. Là, il inaugure cela, François, c'est un partant. Et François, il ose partir, c'est ça son audace. Et en partant, il découvre au fur et à mesure sa voie, et là, il va découvrir sa véritable vocation. Et là, il va entrer véritablement dans son chemin. Mais ça sera toujours sous l'impulsion de l'Église, sous l'impulsion de la grâce, à laquelle, à un moment donné, même s'il y résiste au départ, à laquelle il ne pourra pas ne pas prononcer le oui. Et là, il se met véritablement en chemin.
Vous venez de souligner, François a résisté.
Oui, il a résisté. Mais bien sûr, quand il est allé en prison, quand il a combattu, bien sûr, parce qu'il a fait la guerre, évidemment, il s'est engagé politiquement, François. Il a pris des dispositions. Il s'est engagé, il ne faut pas l'oublier, ça, comme beaucoup de jeunes le font à l'heure actuelle. Il s'est engagé, il a connu la prison, il a été malade. Là, ça lui a donné à réfléchir. Mais son goût de l'aventure, son désir de promotion sociale, ses ambitions, normal, on pourrait dire, pour un jeune, pour un humain, c'est normal. L'ambition n'est pas forcément mauvaise. Bon, mais il a été repris par ses passions. Il a été repris, il a résisté à l'appel. Il a fallu du temps, il a fallu plusieurs résistances. Mais je crois que le Seigneur se sert de ces résistances. Il y a eu la rencontre du Christian d'Amiens, la rencontre du lépreux, son échec quand il est parti rejoindre l'armée du pape. Tout cela lui a donné à réfléchir jusqu'au moment où cette compréhension qu'il y avait quelque chose de fort qui l'attendait, qui ne pouvait pas continuer comme ça, et là il a compris que c'était un appel du Seigneur et il a prononcé un oui. Mais le premier oui véritablement qu'il a prononcé quand il s'est séparé un peu de ses habitudes mondaines, ça n'a pas été le oui final, il a fallu encore un peu de temps pour que le Seigneur lui montre sa vocation. Hein, sa vocation d'apôtre.
Donc on entend, il y a eu un premier oui.
Mais bien sûr.
Et puis, ce premier oui a enchaîné aussi une succession d'autres oui.
Évidemment. Et c'est dans l'Église.
Ce qui le rend profondément humain à François.
C'est profondément humain. Nous sommes donc, constamment en chemin.
800 ans plus tard, François pour aujourd'hui.
Oui,
François. Mettons-nous à l'école de François.
C'est un homme d'aujourd'hui, nous pouvons nous mettre à son école. Il est profondément humain, il a eu des résistances. Il n'était pas toujours facile à vivre, hein, François, il avait son caractère. Il ne faut pas s'imaginer qu'il était là sur son petit nuage, toujours béni oui, pas du tout.
Alors si on pouvait ramener François aujourd'hui à notre époque, vous avez parlé en tout début d'émission dans les premières minutes de tous ces jeunes casseurs. On ne va pas relire l'actualité,
non.
Mais on est dans un monde de confusion, un monde où grandit la violence, dans nos villes, dans nos cités. Comment François s'y prendrait-il, puisqu'on est dans, au fond, et c'est le titre de votre ouvrage, L'audace de la rencontre.
Mais écoutez, mais le monde dans lequel il vivait était un monde de grande violence. Alors, c'est sûr, elle ne se manifestait pas de la même façon. François n'était pas un casseur. Ce n'était pas un casseur. Mais il s'est engagé politiquement. Il a combattu la féodalité. Il s'est engagé. Donc, il a eu des prises de position. Et des prises de position que, de tout temps, vous savez, il n'y a qu'à se remémorer 68. Moi, j'ai bientôt 80 ans. Je suis une 68arde. Je ne suis pas montée sur les barricades, mais je suis une 68arde. C'est la folie de la jeunesse. C'est le feu. Vous avez parlé du feu au départ. C'est le feu du monde, ça. C'est le feu du monde. Mais à un moment donné... toute personne qui est tout de même dans une vérité intérieure, va acquérir au contact peut-être de ses erreurs ou au contact de ses prises de position, va acquérir une réflexion, va acquérir une maturité. Et c'est là que le Seigneur va parler. Et c'est là que peu à peu nous avons à l'écouter. Et je crois que nous en sommes tous plus ou moins là. Nous avons tous un vécu. Nous avons tous des erreurs, nous avons tous un chemin. Voilà. Donc, à un moment donné, le oui se prononce, mais cela relève d'une maturité humaine et spirituelle. Les deux sont inséparables.
Donc, ça montre bien que sur ce chemin de conversion, au fond, c'est ce que nous montre et nous rappelle François dans son histoire. Le temps de la maturité, c'est le temps aussi avec le temps qui passe.
Oui.
La sagesse s'installe, le discernement.
Il y a un profond discernement, mais je pense que ce discernement commence un peu par une sorte de soumission. C'est-à-dire que François, en sortant de prison, il est obligé d'accepter la maladie. Il s'y soumet, il accepte et il en souffre terriblement. Bon, ensuite, il va y avoir peut-être une prise de conscience, une acceptation plus profonde. Et puis, peu à peu, va s'installer peut-être un discernement. Et c'est là que la pédagogie divine peut-être rentre en jeu. C'est là qu'on entre dans une écoute plus profonde, parce qu'on fait une relecture de son histoire. Et je pense que quand on fait une relecture de son histoire, quel que soit notre âge, moi j'ai bientôt 80 ans, mais nous faisons toujours une relecture de notre histoire, il ne faut jamais la faire dans l'accusation, dans une démolition de soi-même. Il faut la faire en la prenant avec une richesse, avec cette expérience de vie qui va nous permettre d'être dans l'ici et maintenant. D'être vraiment, de ne pas chercher à être ceci, cela ou le reste, mais grâce à tout ce que j'ai vécu, mes erreurs, les belles choses, la beauté, je vois de plus en plus l'œuvre de Dieu en moi, je vois de plus en plus l'appel de Dieu en moi, et je vois pourquoi je suis là, pour qui je suis là, et je crois que c'est ça le plus important. Ne jamais revenir en arrière avec des regrets ou des accusations, en faire une richesse. Et entrer dans l'être que je suis maintenant, voilà, dans cet être.
C'est toute la leçon de François.
Je crois que c'est ça, François, c'est ce que François m'a appris. Il m'a appris cela, à être. Alors, bien sûr, prenons ce mot avec humilité et modestie, évidemment.
Et François, évidemment. Tout à fait. Et François, et vous nous l'avez rappelé au cours de ces premières minutes d'émission, est resté toujours fidèle. Et ça a été son lien constant avec notre mère, l'Église.
Oui, je crois qu'il est important de le signaler, parce que c'est une époque où il y avait beaucoup d'hérésie. L'hérésie cathare, n'oublions pas. beaucoup de groupes qui, on ne peut pas dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais qui voulaient se séparer de l'Église. Or, pour François, j'ai envie de dire que la suite du Christ, la foi, l'Évangile, l'Écriture, suivre le Christ, l'obéissance à l'Église, n'a jamais été un problème. Et cela ne l'a pas empêché, et ce qui est intéressant quand on approche François de plus en plus près, de se rendre compte justement de son audace. Il était très libre, François. Il osait entreprendre et il osait faire. Ce n'était pas un béni oui-oui. D'ailleurs, il a apporté, ça a permis à l'Église de faire un bond énorme. Ça a apporté une transformation colossale dans l'Église, le chemin de François. Ça a été une immense ouverture. Donc François avait cette audace. Il savait aller au bout de son désir, mais sans s'acharner. C'est-à-dire qu'il est toujours resté dans l'obéissance à l'Église. C'était une structure pour lui. Ça lui permettait justement d'être de plus en plus à l'écoute de la parole, de l'Écriture. J'ai envie de dire d'être demeure du Christ. D'être demeure du Christ. C'est cette fidélité à l'Église. Et pourtant, malgré son audace, il avançait, il n'était pas toujours d'accord. Mais il ne s'est jamais séparé de l'Église. Il a toujours été fidèle. Fidèle au pape, fidèle à l'Église.
Donc ça, c'est un point très important, encore pour aujourd'hui.
Oui.
Il y a aussi l'histoire du monde, l'histoire de l'Église. Il y a aussi ces crises, ces guerres.
Ces fragilités.
Ces fragilités, ces répétitions.
Monde, l'histoire se répète.
Voilà, l'histoire se répète avec ses joies, ses peines, ses guerres, répétitions qui n'en finissent pas. Oui.
Mais la fidélité, rester fidèle, et je crois que la rencontre du Christ pour lui a été bien sûr capitale. C'est ce qu'il a. Il ne s'est jamais séparé de cette rencontre du Christ dans la petite église de San Damiano. Mais il a mené son combat parce qu'il a été confronté. Il ne faut pas croire que François, dès le début, a été approuvé, que son mouvement a été approuvé par l'Église. L'Église était prudente. Elle voyait bien ce qui se passait. Elle était en conflit avec les hérésies cathares, dont l'Église était extrêmement prudente, c'était normal. Et qu'est-ce que c'était que ce jeune qui avait des grandes idées de pauvreté, etc., etc., qui allait sur les routes, alors qu'à l'époque, les grandes abbayes étaient fermées. Or, François allait au-delà.
Donc, c'était un visionnaire, François, hein, quand 800 ans plus tard.
C'est tout un univers.
C'est
tout un univers qui nous ressemble. Donc, il ne faut pas croire que les choses se sont faites facilement pour lui. Il a fallu du temps à lui et à l'Église pour entrer dans ce mouvement.
Alors, Suzanne, José Pitestu, vous êtes mon invitée dans ce Vivante Église que nous consacrons aussi à votre dernier livre. C'est toujours la joie aussi de parler de François, un disciple missionnaire obéissant dans cette humilité et puis dans cette audace. Il brûle pour le Christ, il a une paternité et on va encore en parler de François et de cette audace de la rencontre. Et mettons-nous à l'école de François, le temps d'une pause musicale et on vous retrouve juste après, et merci.
Fais-moi un instrument de ta paix.
Là où il y a la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette
là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a la ténèbre, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Fais de moi un instrument.
C'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en souriant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Toi dans mon cœur, fais de moi un instrument.
Présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
De retour dans Vivante Église avec, pour intervenante au micro, Suzanne Josy Pitestu, auteure de ce dernier livre qui est paru aux éditions de Nouvelle Cité, L'audace de la rencontre à l'école de Saint-François d'Assise. Depuis le début de cette émission, nous découvrons, nous redécouvrons encore François fondateur, au fond visionnaire. Et il y a quelques minutes, juste avant cette plage musicale, vous soulignez aussi, et c'est peut-être aussi un point que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, monde de tension, monde de guerre, où la solitude est très présente, monde de solitude, de tristesse parfois. Oui. Où, voilà. François peut nous inviter aussi à cette école de la fraternité, cette école aussi d'une intelligence. François reste un homme profondément à l'écoute de ce Jésus crucifié, dont il a été foudroyé dans cette petite église. Son cœur s'est ouvert, son cœur s'est ouvert à l'amour de Dieu. Et dans tout son parcours d'homme, vous l'avez souligné, et je crois qu'il est bon aussi d'y revenir, cette obéissance, toujours, malgré peut-être les contrariétés, à l'église. Alors comment expliquer que cet homme plein de feu, visionnaire, fondateur, reste, malgré les hauts et les bas, parfois, d'une Église, fidèle à l'Église du Christ.
Oui, c'est une très grande question, et il est certain qu'elle nous touche tous de très près, particulièrement la jeune génération et notre Église également. Et je crois qu'il est important de souligner une chose, que François n'est pas un obéissant. De par sa personnalité, c'est un entrepreneur, c'est un partant, il a de l'audace, hein, il prend des risques,
il sait prendre des risques.
Il a ce désir du monde, il aime le monde.
Et cette audace.
Voilà, cette audace. Il a cette audace qui est extraordinaire. Donc les grands audacieux ne sont pas toujours des grands obéissants. Mais tout dépend ce qu'on entend par obéissance, évidemment. L'obéissance, c'est pas quelque chose de figé, j'obéis aveuglement, ce n'est pas ça du tout. On le confond justement à cette chose-là, et ça nous fait très peur parce que n'oublions pas que nous sommes créés libres et nous avons à faire usage de cette liberté. Donc, la liberté, c'est aussi peut-être de désobéir dans certaines situations, dans la mesure où cela nous éloigne de notre, ou de Dieu, par exemple, ou de notre objectif. Mais la liberté, c'est aussi l'obéissance. Et je crois que François, il va y venir tout doucement, parce qu'il va se laisser éclairer par l'Évangile, par le Christ. Il va se laisser éclairer par le Christ, mais par l'homme Jésus. Et à partir de cette rencontre, il va s'adresser à l'homme concret. Et peu à peu, en écoutant l'autre, en allant à la rencontre de l'autre, il va entrer au fur et à mesure dans une obéissance intelligente, libre, créatrice. Et pourquoi ? Parce que cela, il va comprendre que cette obéissance au Christ, cette obéissance à l'amour du Christ, parce que c'est le Christ qui l'envoie vers les autres, c'est le Christ qui le pousse vers cette rencontre des hommes, c'est l'homme Jésus qui le pousse vers cette rencontre. Il se rend compte, François, que cette obéissance lui assure une stabilité. Ça lui assure un cadre, ça lui assure une stabilité dans la foi. Parce que vous avez parlé de tristesse, il est vrai que oui, nous sommes parfois dans un monde triste, de désespérance même. Tout simplement parce que nous manquons probablement de foi. Alors c'est peut-être un peu facile à dire, mais je crois que François, il a trouvé cette force dans la foi, au contact des autres, en rencontrant les autres, en les écoutant, en les aidant, en leur apportant ce qu'il contenait de plus beau en lui, en témoignant de la parole, en témoignant de sa foi. Et ça, c'est ce qui lui a assuré cet ancrage. Et à partir du moment où il y a cet ancrage, j'ai envie de dire, cela peut peut-être choquer un petit peu, mais nous avons moins le temps d'être tristes.
Intéressant. Alors chez François, l'évangile devient presque une manière pour lui de respirer. Comment la parole de Dieu, cet évangile, cette parole de Dieu qui va méditer, ruminer, va transformer la vie de François, au fond, dans son quotidien, dans ce quotidien aussi de la rencontre de l'autre, dans cette audace aussi de la rencontre et de l'écoute.
Oui, ça va le transformer parce qu'au départ, il ne faut pas oublier qu'il est seul. Quand il se sépare de son père, il part en ermite sur les routes, mais il ne sait pas où il va. Il est seul. Et au fur et à mesure, bon, il va revenir à Assise, il va y avoir des étapes, des événements qui vont se produire. Et il se cherche, on l'a déjà dit, il se cherche, il ne sait pas trop où il va. Il ne sait pas vers quoi le Seigneur le conduit. Se pose-t-il même la question ? En tout cas, il s'interroge quand même. Et il faut comprendre que tant qu'il ne va pas être rejoint par des frères, tant qu'il est seul, il ne va pas découvrir sa vocation. Il ne va pas découvrir vers où le Seigneur l'envoie. Il ne va pas découvrir que lui-même va devoir mener la vie d'un apôtre. C'est quand il est rejoint par ses frères qu'avec ses frères, il partage la parole, il partage l'écriture, il partage ce même désir de Dieu, que là, il va comprendre quelle est sa mission. Donc, ça, ce qui est très intéressant dans la vie de François, il nous fait comprendre que seul, on ne peut rien. Nous avons besoin de l'autre. Et c'est au contact de l'autre et des autres, sur les routes, en rencontrant les autres, en rencontrant la misère humaine, en rencontrant la tristesse des hommes, en rencontrant leurs besoins, en rencontrant leur fragilité, que François va s'enrichir de la grâce et va redonner la parole. Et c'est ce qui sera sa force. Et pourtant, il va avoir des grands moments de solitude lui-même. Il va avoir des grands moments de questionnement. Il va être confronté à la fragilité humaine. Il ne va pas toujours être compris, mais il va toujours être animé par cette force. Et c'est dans l'obéissance à la parole, dans l'obéissance à l'amour du Christ, qu'il va pouvoir continuer. Il va traverser des moments de tristesse. Ce n'est qu'un homme. Il va traverser des moments de dépression. Mais cette obéissance au Christ, à l'amour du Christ et à ce qu'il a vécu, et à la misère du monde qui a tant besoin de la parole, qu'il va continuer à marcher.
Donc vous nous décrivez, et merci de nous rappeler aussi que saint François d'Assise était avant tout aussi un homme,
oui,
fait de chair, avec
oui,
ses fragilités, ses désirs, ses impuissances,
oui,
ses moments aussi, il est bon quand même de l'entendre,
oui,
et de nous rappeler ces moments aussi de défaillance, peut-être de tristesse ou d'état dépressif.
Oui, vous savez, quand François n'est pas toujours compris dans son entourage, il n'est pas toujours compris par l'Église, il n'est pas toujours compris par ses frères, et on a tort de penser que sa spiritualité, que François est dans une radicalité. Pas du tout, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que l'Évangile, c'est une radicalité inatteignable, parce que François, sa règle, c'est l'Évangile. Donc, je crois que nous ne savons pas justement obéir, notre foi est tiède, mais François suit le Christ, il suit l'Évangile, il est amoureux fou de la parole. Donc c'est ce qui le maintient. Et dans l'épreuve la plus grande, quand il monte un jour dans son ermitage au Carcheri et qu'il fait, il est en dépression, il ne sait pas où il va, et il y a des frères qui s'opposent à lui, et il est peut-être prêt à tout abandonner dans ce moment-là. Oui, il est peut-être prêt à tout abandonner, comme cela nous arrive. Et là, le Seigneur lui dit, mais pauvre petit bonhomme, il entend, mais pour qui te prends-tu? Ces frères, c'est moi qui te les ai donnés. Donc, François a aussi à se séparer de ce pouvoir d'homme, de cet orgueil d'homme, qui croit peut-être parfois que tout arrive par lui et que tout arrive grâce à lui. Donc, il a à se déposséder de lui-même. Mais cette dépossession, il le fait toujours dans l'obéissance à l'Église, et c'est ce qui affermit sa foi. Et c'est ce qui affermit son amour en Christ. C'est ce qui nous rend forts. La foi, l'obéissance ne nous rend pas faibles. Ce n'est pas un enchaînement. Ça nous rend forts, très forts.
Parce que cette obéissance, on l'entend bien, on le comprend. Et puis l'obéissance aussi de tous les saints, c'est une obéissance dans l'intelligence et dans cette vraie liberté,
oui,
des enfants de Dieu. Donc,
oui,
ce sont des hommes et des femmes libres, qui ne
totalement
sont pas
libres.
Enchaînés. On peut noter et retenir aussi que cette mission de François, ce prophète, cet,
oui,
homme de Dieu,
oui,
est né dans une mission au cœur de la fraternité. Dès que François est parti à la rencontre des hommes.
Oui, c'est très juste. La fraternité, ce n'est pas, là aussi, ça ne se fait pas en claquant des doigts, en disant nous allons créer une fraternité, parce qu'elle doit se construire. Parce que c'est très facile parfois de vouloir rassembler des hommes. Mais là, le Seigneur lui a donné des frères. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on ne passe pas de 7 frères ou 6 frères à des milliers de frères qui un jour nous rejoignent. Mais la fraternité, elle se construit dans les larmes parfois, elle se construit dans la douleur, elle se construit dans l'opposition. Mais François est toujours resté fidèle à son engagement et à son appel. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les contradictions, malgré les incompréhensions, François est toujours resté fidèle à l'appel du Christ. Toujours.
Et là, on rejoint.
Et c'est sa force.
C'est sa force. On rejoint aussi ce point que vous avez nommé, la stabilité de François.
C'est sa stabilité. On regarde ses fragilités. François reste un homme sensible, vulnérable, fragile, humain. Mais ce désir de Dieu, sa foi et cet amour, cette fidélité le rendent fort et libre. Au cœur, toujours au cœur de ses épreuves, il sera toujours libre. Il osera toujours dire ce qu'il a à dire. Il ne se dérobera jamais. Et c'est une très grande force. On l'a dit au départ, il accepte l'incompréhension. Il accepte le non-accord de l'autre.
Il accepte
l'échec.
Et les différences.
Il accepte plus que jamais. Plus que jamais, dans le rapport, dans la rencontre de l'autre, il accepte les différences. Et c'est ça la fraternité. C'est-à-dire, quand il va à l'écoute de l'autre, il écoute quel que soit l'autre. Il écoute l'homme dans toute son humanité, quelle qu'elle soit, mais il écoute avec le regard du Christ et riche de la parole de Dieu. Et c'est ça sa force. Et c'est très exigeant, bien sûr, nous le savons bien. Quand on essaie de cheminer avec François, nous savons que c'est terriblement exigeant. Elle est là, cette exigence. Ce n'est pas de la radicalité. C'est une exigence et c'est de la foi et c'est de l'obéissance.
Et au fond, dans cette obéissance, c'est de la foi, c'est de l'amour, c'est de la charité.
C'est de l'amour, c'est de la charité. Mon Dieu, que l'amour est difficile. Mon Dieu, que c'est difficile combien. Parfois.
Alors, ce sont des hommes et des hommes qui ont suivi le Christ et qui, à travers aussi cet homme de Dieu, François, dont vous avez parlé tout au long de ce Vivante Église aujourd'hui, avec cet ouvrage, je le rappelle pour les auditeurs qui vous ont suivi aujourd'hui, un livre est paru à Nouvelle Cité, c'est le dernier, le vôtre, l'audace de la rencontre à l'école de François d'Assise. Ce qui est intéressant aussi, et nous pouvons peut-être terminer sur cette note, François a été suivi. Saint François aussi a été certainement, comme des hommes d'aujourd'hui, parfois admiré pour ce cœur qui brûlait. Il n'a jamais été un gourou.
Non. Alors, vous avez dit qu'il a été admiré. Alors, justement, nous n'avons pas à admirer François. François, ce n'est qu'un homme. C'est mon frère. Et François, comme lui, nous avons la possibilité de répondre oui, parce que sans la grâce, sans nos frères et sœurs en humanité, et sans la grâce, nous ne pouvons rien. Et François a dit oui, et nous avons la possibilité de dire oui. On peut aimer François, on aime sa spiritualité, je le rejoins, je rejoins sa sensibilité, je rejoins sa fougue, je rejoins son audace, bien sûr, mais admirer... François est un homme. Il me donne un exemple, tout simplement. Nous avons tous la possibilité de, comment dirais-je, en relisant sa vie, en étant à son écoute, d'apporter des réponses, d'apporter les mêmes réponses. À notre mesure, chacun à notre mesure. Je ne suis pas François. Je suis Suzanne. J'apporte les réponses de Suzanne et en fonction de ce que le Seigneur me demande ou tout au moins de ce que j'essaie de comprendre. Voilà. Mais je réponds. Je réponds, sans la grâce, je ne peux rien. Sans mes frères et sœurs en humanité, je ne peux rien. Ce sont eux qui m'enseignent.
Qu'est-ce qui a protégé, au fond, François, de ne pas devenir tout puissant et, permettez-moi d'employer le terme de gourou?
Oui, ça aussi, c'est très important. C'est le danger, je crois que là, vous mettez le point, sur le danger de tout fondateur ou de tout meneur d'homme. François est un meneur d'homme. Et dès le début de sa conversion, quand il a ses premiers frères, il demande un jour à un de ses frères d'aller prêcher nu, enfin juste en caleçon, hein, à la cathédrale. Et ce frère est timide, il est terrorisé, etc. Et ce frère, par obéissance, il y va. Et là, François se rend compte qu'il a un abus de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille, il va rejoindre le frère lui aussi en caleçon. En caleçon, bon, et bien là, si François n'avait pas eu ce geste, s'il n'avait pas réalisé qu'il était allé trop loin, là, il serait peut-être devenu un gourou. C'est très dangereux, très dangereux. Il faut faire un très bon usage de l'obéissance, très bon usage de l'obéissance que envers soi et que l'on impose aux autres.
Alors au fond, mettons-nous à l'école un peu de François d'Assise. Qu'en pensez-vous, oui. Suzanne?
Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, beaucoup de miséricorde. Beaucoup de miséricorde envers nos frères, sœurs en humanité. Et puis, mon frère, c'est toi. Ma sœur, c'est moi aussi. C'est moi.
Merci beaucoup, Suzanne José Pitestu, d'avoir été avec nous dans Vivante Église aujourd'hui. Votre livre, L'audace de la rencontre à l'école de Saint-François d'Assise, nous rappelle qu'au cœur même des crises de notre temps, de notre époque, il existe peut-être un autre chemin, un chemin simple de fraternité, exigeant, vous l'avez rappelé, certes, l'exigence aussi de la rencontre de l'autre pour créer une vraie relation, une vraie fraternité, une vraie rencontre. Voilà, donc merci à vous.
Merci
à vous tous, auditeurs, de votre fidélité. À bientôt.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.